Ce matin, on revient à notre série dans Galates. Juste pour se remettre en contexte, on est rendu à notre quatrième exposé. Premier exposé, on a vu ensemble, la bonne nouvelle de la grâce ne vient pas de l'imagination humaine. Cette idée d'un Dieu qui vient mourir, qui vient, qui s'incarne, qui meurt sur la croix pour nos péchés, est beaucoup trop belle pour avoir été inventée par l'être humain. C'est par une révélation de Dieu que l'apôtre Paul a reçu ce message-là. Deuxièmement, on a vu dans le deuxième exposé, la grâce de Jésus-Christ ne se trouve pas à tâtons. On peut pas découvrir ça juste en philosophant, en réfléchissant, en disant « OK, peut-être qu'il y a un Dieu qui serait mort pour nous sur la croix. » C'est vraiment parce que Dieu se révèle à nous. Et ce que ça nous rappelle, nous, c'est que si tu connais Jésus-Christ personnellement, non seulement intellectuellement, mais tu as cru en lui, c'est une grâce incroyable que tu as reçue. C'est un privilège inestimable, non seulement de connaître ces choses-là, mais d'y croire et de vivre à la lumière de ces vérités-là. Et enfin, dans le troisième exposé, on a vu ensemble que Jésus-Christ seul est notre liberté. Tout ce qu'on ajoute à l'œuvre de Christ vient détruire le message de l'Évangile. Jésus-Christ est suffisant. Et comme on va le voir ce matin, l'apôtre Paul, dans la fin du chapitre 2, va raconter un épisode dans l'histoire de l'Église à Antioche qui nous aide à voir combien c'est difficile pour nous de nous reposer entièrement dans la grâce. On découvre la grâce en Jésus-Christ, mais c'est difficile pour nous de vivre à tous les jours à la lumière de la grâce. Quand on pense à Dieu, on a comme par réflexe un rapport de culpabilité avec Dieu. On revient là constamment. On va développer ça ensemble ce matin. Et donc, Paul raconte un épisode où des Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ viennent à Antioche, et puis l'apôtre Pierre, qui évidemment avait bien compris l'Évangile, se sentait libre maintenant par rapport à la loi juive. Alors, Pierre est juif d'origine, croit en Jésus-Christ et dit « Je suis même libre par rapport à la loi juive. » Et donc, il est en train de manger avec des non-juifs qui sont devenus chrétiens. Ça veut dire qu'ils mangent aussi leur nourriture, d'accord? Il est totalement libre. La bouffe des non-juifs est rendue cachère à cause de l'Évangile pour Pierre. Et puis là, il y a des Juifs qui ont cru en Jésus-Christ qui n'ont pas totalement saisi l'Évangile. Ils ont cru en Jésus, mais il y a des aspects de l'Évangile qu'ils n'ont pas saisi, qui viennent en visite, et qu'est-ce qui se passe? Pierre change de table. Pierre change de table, il s'en va s'asseoir avec les Juifs, puis il retourne à sa nourriture cachère. Alors, essayez d'imaginer la scène. Parce qu'en faisant ça, Pierre vient de confirmer qu'il y a deux classes de chrétiens. Il y a ceux qui sont sous la loi juive, puis il y a ceux qui ne sont pas sous la loi juive. L'apôtre Paul nous dit, « J'y ai pété une coche, comme on dit au Québec. » Il a pété une coche à Pierre, il est tombé d'en face. Parce qu'il a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train d'annuler complètement l'Évangile. » Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va prier. Père éternel, Seigneur, lorsqu'on vient à toi en croyant en Jésus-Christ, on découvre un aspect de ta personne qu'on ne peut pas découvrir seulement naturellement. Un Dieu saint et juste, mais un Dieu qui fait grâce. Un Dieu devant lequel on n'a pas à se prouver constamment, mais en qui on doit se reposer dans ta grâce, Seigneur. Et Père, moi le premier, je veux te confesser combien c'est difficile de vivre chaque jour seulement à la lumière de ta grâce, Seigneur. Comment c'est difficile de me reposer quotidiennement dans ta grâce. J'ai encore trop souvent le réflexe d'entrer en relation avec toi avec culpabilité, Seigneur. Et je te prie, Père, de nous faire grandir ce matin. Que ce passage tellement important de ta parole vienne vraiment, vraiment nous transformer, Seigneur. Que par ton Esprit Saint, il y ait une dimension de l'Évangile, une dimension de la grâce qui s'ouvre à nos yeux, Seigneur, pour que nous apprenions en Église, dans nos rapports les uns avec les autres, dans notre rapport avec toi, Seigneur, dans notre compréhension, notre appréciation de ce que Jésus a fait, qu'on apprenne vraiment, Seigneur, à se reposer dans ta grâce. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, on poursuit dans Galates, au chapitre 2, les versets 11 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Galates, chapitre 2, versets 11 à 21. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non pas par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.
Merci, chérie. Un psychiatre, docteur Karl Menninger, un éminent psychiatre du 20e siècle, a dit un jour qu'il pourrait vider 70% des lits en psychiatrie s'il parvenait seulement à convaincre tous les patients qu'ils sont pardonnés. La culpabilité, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. On va dire la nature déchue, d'accord? C'était pas là avant le péché, mais comme on est tous pécheurs, ça fait partie de la nature humaine, la culpabilité. C'est omniprésent. Un pasteur que j'aime bien, Sandy Wilson, écrit ceci et dit « Il y a tellement de bonnes choses que nous faisons motivées par la culpabilité. Nous prions parce que nous sommes censés prier. Nous visitons quelqu'un à l'hôpital parce que nous ne voulons pas nous sentir coupables de l'avoir négligé. Nous apportons un repas à quelqu'un parce qu'il nous en avait apporté un dans le passé. Nous lisons notre Bible parce que l'Église a un plan de lecture de la Bible et il semble qu'un chrétien mature lit régulièrement sa Bible. » Et de plus, nous passons notre temps à tenter de discerner si la culpabilité que nous vivons est bonne ou mauvaise. Mais la réalité, c'est que les deux produisent le même effet psychologique. C'est vrai. C'est pas simple. Puis, je me permets de vous partager juste mon expérience personnelle comme pasteur. Puis ceux qui bon, aller dans le ministère pastoral pendant quelques années, vous allez expérimenter ça. On a un drôle de rapport avec les gens parce que rapidement, quand je commence à parler avec quelqu'un, un chrétien, puis des fois même avec des non-chrétiens qui ont un arrière-plan, rapidement tu vas voir dans leurs yeux qu'ils ne parlent pas avec Yannick, là. Ils parlent avec quelqu'un qui pourrait peut-être les aider à voir qu'ils sont coupables de quelque chose. Puis vous me direz peut-être que c'est ma personnalité, mais c'est l'expérience de tous les pasteurs. Juste parce que je suis pasteur, les gens sont là, puis okay, est-ce que j'ai fait quelque chose? Sandy Wilson raconte une histoire. Il dit un jour, il donne une conférence. Il était pasteur à cette époque-là dans un milieu rural où il connaissait un peu les gens au village, tout ça. Puis il donne une conférence. Puis il y a une jeune femme qui vient le voir après la conférence. Puis elle dit : vous êtes pasteur dans le coin où ma mère vit. Madame Wilson. Fait qu'elle donne son numéro de téléphone. Puis elle dit : j'aimerais ça que vous l'appeliez juste pour lui dire que sa fille la salue. T'sais. Fait qu'il rentre à la maison, téléphone Madame Wilson. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est le pasteur Sandy Wilson. Oh, je suis désolé, je ne le referai plus. Il dit, c'est quoi vous parlez? C'est quoi? Ben, elle dit, je recevais pour l'action de grâce, puis j'avais un centre de table à préparer, puis je suis passé devant le terrain de l'église, puis vous aviez des belles cocottes de pain, puis j'ai ramassé des cocottes de pain sans demander la permission. Je ne le referai plus jamais. Sandy Wilson lui dit, Madame Wilson, vous pouvez n'importe quand. Venez vous chercher les cocottes de pain, on vous les donne gratuitement, pas de problème. Voyez-vous, le remède à la culpabilité, c'est de comprendre que la grâce de Dieu, c'est une grâce. C'est entièrement, gratuitement que Dieu nous l'offre. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir que lorsque la grâce de Dieu saisit mon cœur, à ce moment-là, par la foi, j'abandonne toute tentative de me justifier moi-même devant Dieu et la vie de Christ commence en moi. Je répète ça. Quand la grâce de Dieu saisit mon cœur, par la foi, j'abandonne toute tentative de me justifier moi-même devant Dieu et la vie de Christ commence en moi. Alors, premièrement, être ou ne pas être juste devant Dieu. Telle est la question. Dans Galates 2, au verset 16, on lit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Alors, juste pour le contexte culturel, de quoi on parle lorsqu'on parle d'être justifié devant Dieu? C'est un langage avec lequel on n'est pas vraiment habitué. De quoi on parle? C'est quoi l'idée d'être justifié devant Dieu? De quoi il est question? Bien, la personne de Dieu, Dieu lui-même, c'est l'être le plus juste qu'on pourrait imaginer. Voici ce qu'on lit dans le psaume 97, les versets 2 à 4. Alors, on est dans l'Ancien Testament, on a un passage de célébration, d'adoration de Dieu, puis voici ce qu'on lit. « Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. » On parle du trône de Dieu. « Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. » Donc, je vous relis juste la première phrase. « Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. » Peut-être que ce n'est pas comme ça que vous avez imaginé Dieu, peut-être que ce n'est pas comme ça que vous voyez Dieu, mais les saintes Écritures nous font connaître notre Créateur en nous disant la base de son trône, le fondement, ce sur quoi repose le trône de Dieu, c'est au fondement même de la personne de Dieu, c'est la justice et l'équité. C'est une caractéristique de sa personne. C'est dans sa nature profonde. C'est un être absolument juste et équitable. Il ne peut pas regarder le monde, regarder la terre, regarder les êtres humains, regarder à l'intérieur de nos cœurs et juste oublier les injustices dans le monde. J'ai déjà cité à quelques reprises à travers les années John Piper qui parlait avec quelqu'un qui n'était pas chrétien puis il dit « Il est où ton Dieu? » Je ne sais pas si vous vous rappelez. « Il est où ton Dieu avec toute l'injustice qu'il y a dans le monde? » Puis John Piper de répondre, « Il est en train de prendre des notes. Il est en train de prendre énormément de notes. Et au jour du retour de Christ, la justice va descendre sur les hommes. Inquiète-toi pas, la justice va venir. » Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est un de nos grands défauts. Hein? On a beaucoup de difficultés à nous renier nous-mêmes. Ma parole dit une chose une journée, puis le contraire le lendemain. Cette semaine, j'étais dans la prière, puis je prenais un temps de confession. Là, je dis, je vais prendre un temps de confession, puis j'ai juste dit, Seigneur, rappelle-moi ce que je devrais confesser. Tu sais, je manque de foi, non. Puis à un moment donné, c'est, Seigneur, souvent je mens. Je dis pas la vérité. C'est juste comme, tu sais, juste tweak un petit peu. Dieu ne peut pas faire ça. Ça ne fait pas partie des options pour Dieu. Dieu est absolument, complètement, parfaitement juste. Le psaume nous dit que c'est au fondement de son trône. T'enlèves ça, il n'est plus Dieu. Et donc, c'est devant ce Dieu-là qu'on veut se présenter. C'est avec lui qu'on veut entrer en relation. C'est de lui dont on veut s'approcher. Et l'apôtre Paul démontre dans sa lettre aux Romains que personne n'est capable de se justifier devant Dieu, de se présenter à Dieu en disant « Je suis juste, je peux rentrer dans ta présence. Je passe le test. Je suis kosher par moi-même. » Personne ne peut faire ça. Paul dit dans Romains 3, il dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Paul nous dit dans Romains, en fait, que la loi dans les Écritures, bien sûr, elle est parfaite. Bien sûr, elle nous dit c'est quoi la bonne chose à faire. « Tu ne tueras point. » C'est bon, c'est sage. OK, aime ton prochain, plein de bon sens. La loi est parfaite. Il n'y a pas de problème. Mais avec des êtres déviants, comme toi et moi, la loi sert davantage à exposer nos déviances. La loi est un pédagogue qui expose tous mes échecs à faire la bonne chose. Ah, des fois, je m'en tire pas pire, mais je réussis même à m'enorgueillir du fait que je m'en suis tiré pas pire. J'ai été un meilleur chrétien que lui ou elle cette semaine. Regarde, tu viens tout scraper, là, man. C'est comme... T'aurais mieux rien faire. Tu sais. T'aurais mieux fait de rien faire. Et donc, Paul va démontrer que personne ne va être justifié devant lui par les œuvres de la loi. Le défi est énorme. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, on lit ceci. « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. » Afin qu'on soit heureux parce qu'on va être en paix avec Dieu, afin qu'on soit heureux parce que la loi est bonne. Si tu arrives à observer la loi de Dieu parfaitement, tu vas vraiment être heureux. Mais la réalité, c'est que tu n'y arriveras pas. La réalité, c'est que tu n'y arriveras pas. Puis si tu veux saisir la grâce, ça va prendre ce moment où tu vas plier les genoux, tu vas tomber par terre, tu vas dire, « Seigneur, j'abandonne, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. » Parce que le standard est trop élevé. Je suis capable de me comparer avec mes voisins. Je peux lire les journaux et dire, « Ah, je suis mieux que celui-là. Ah, je suis mieux que celle-là. » Ça, je peux faire ça. Mais quand j'arrive devant Dieu, la justice de Dieu est non négociable. Elle est absolue. Puis Paul dit, « Il n'y a personne. Il n'y en a pas un. » C'est intéressant, je relisais Mère Teresa. Ceux qui sont un peu plus vieux, vous avez connu Mère Teresa. Mère Teresa, elle-même, confessait dans une entrevue qu'elle n'était pas certaine d'aller au ciel. Parce qu'elle était dans un système religieux où ça allait selon tes performances, puis elle n'était pas certaine, avec sa vie dévouée à servir des pauvres, que ses performances étaient suffisantes pour qu'elle rentre directement au ciel. Probablement aller faire quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années au purgatoire avant de rentrer au ciel. Dans son système, il fallait qu'elle ait payé, il fallait qu'elle ait remboursé ses dettes à Dieu. Et c'est ça que Paul exprime dans une autre de ses lettres, dans Éphésiens 2, au verset 8 à 10. Voici ce qu'il dit. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Il n'y a personne ici qui va être capable de se justifier devant Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Alors, on est justifié par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Une grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Je ne peux pas l'arracher, je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas payer pour. Ce n'est plus une grâce si je peux faire ça. Ta paye que tu as eue cette semaine ou que tu as eue la semaine dernière, en principe, ce n'est pas une grâce. J'espère pour toi que ce n'est pas une grâce. J'espère que tu l'as mérité. J'espère que tu es fier d'avoir mérité ta paye, d'avoir travaillé fort. C'est excellent, c'est excellent. En principe, ta paye, ce n'est pas une grâce. Galates 2,16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre à lui, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, à cause de ses œuvres à lui, pas les nôtres, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La grâce se reçoit comme un acte de foi, un point c'est tout, et si j'ajoute n'importe quoi à ça, je viens de bousiller l'Évangile. Je viens de bousiller la grâce. Ce n'est plus une grâce. Imaginez un instant. J'ai vu Gabriel, puis est-ce que Abigail, Gabriel est là. Abby est à côté. Levez-vous un instant. On a des jeunes mariés ici. Allez, allez, allez. Des jeunes mariés. Restez debout. Restez debout deux secondes. Imaginez un instant que vous êtes au mariage de Gabriel puis Abigail, OK? Puis là, il arrive le moment où ils échangent leurs vœux, puis ils sont beaux. Ah, on les trouve géniaux. C'est un moment romantique, c'est un moment parfait. Puis là, Gab, il lit ses vœux, tout ça. Puis là, il présente une alliance à Abigail, tu sais. Puis c'est romantique. Puis là, Abigail a dit, « Oh, attendez une seconde. » On arrête. Elle arrête la musique. Elle fait signe à une de ses dames d'honneur. Elle demande d'y apporter sa sacoche. Elle arrive avec sa sacoche. Elle sort une coupe de centaines de dollars. Elle donne ça à Gabriel. Puis après ça, elle accepte l'alliance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est poche, merci. Ils l'ont pas fait comme ça. Abigail a accepté l'alliance parce que c'est par amour. Mais voyez-vous, on vient à Jésus-Christ en acceptant la grâce, mais souvent la manière qu'on se comporte après dans notre vie chrétienne, c'est comme si... « OK, Seigneur, merci, tu m'as sauvé par grâce, je suis vraiment reconnaissant. » Mais on est toujours comme en train de regarder vers lui, puis on se dit, « Attends un petit peu, t'es sûr que tu veux pas que je te rembourse un peu? Je pourrais au moins te remettre ça, tu sais. » Puis là, on avance, « Non, 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 c'est un cadeau, c'est un cadeau. Non, non, écoute, tu vas m'insulter, c'est un cadeau. » Ouais, mais OK, c'est correct. Tu sais. Puis là, on regarde vers Jésus, « T'es sûr? Juste un peu, écoute, laisse-moi t'en remettre un petit peu. » On passe notre vie chrétienne à essayer de rembourser Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on revient sur ce rapport-là de mérite avec Dieu. Il faut au moins que je sois capable de te montrer que, tu sais, regarde, je suis capable de t'en remettre un peu, c'est vraiment cool. Tu es mort sur la croix pour mes péchés, écoute, j'aurais jamais pu le faire. Écoute, tu ne regretteras pas d'être mort sur la croix pour moi. Tu vas voir ça, tu ne le regretteras pas. Je vais passer ma vie chrétienne à te rembourser un petit peu à tous les jours. Un petit peu à tous les jours. Fait qu'Abigail, mais ça a l'air qu'elle rembourse, comme je pense, un 50$ par semaine. C'est ça, gars? Mais non, vous comprenez? Vous comprenez? C'est plus l'amour qui est exprimé là. C'est plus la grâce qui est exprimée là. Et je pense que notre vieille nature, celui que j'étais avant de connaître Jésus, bien, Paul nous dit qu'il faut que je fasse mourir sa manière de penser. Je dois apprendre à renoncer à cette manière-là de penser. Mais souvent, là, je deviens le vieux Yannick. Puis là, je veux sortir mon portefeuille et dire, « Jésus, combien je te dois? » Écoute, je pense j'en ai mis un peu de côté. Je pourrais t'en remettre un petit peu ce matin. Tu sais, j'ai fait comme beaucoup de prières. Puis peut-être que, tu sais, ça peut compenser un peu. C'est pas ça la grâce. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça la grâce. La vie chrétienne, ce n'est pas passer ta vie à vouloir rembourser Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. C'est d'être nourri à tous les jours de ce qu'il a fait pour toi. Et c'est ça la grâce. C'est ça, apprendre à se reposer dans la grâce. C'est apprendre à déposer les armes, déposer mes performances, déposer ce que je suis capable de donner à Jésus. Paul dit au verset 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Le pasteur Ray Hartland, que j'aime bien citer, dit ceci, « Permettez-moi de vous demander, que s'est-il passé quand vous avez accepté Jésus? Est-ce que vous avez ajouté Jésus à vos œuvres? » Comme si tu disais, « OK, j'ai compris, là. Avant, j'essayais de bien faire pour plaire à Dieu, maintenant j'ai compris, il faut que je croie en Jésus. Il faut que j'ajoute ça, je vais croire en Jésus, puis là, je vais être kosher, je crois en Jésus, tu vois, je suis capable de croire en lui, puis là, je vais être correct, je vais y arriver. » Mais si c'est ça, tu es encore dans le même rapport, c'est un rapport religieux avec Dieu. Non, tu déposes les armes. Tu déposes tous tes alibis pour « j'ai pas été un bon chrétien cette semaine, mais c'est parce que, regarde, tu n'es jamais un bon chrétien. Tu es sauvé par grâce, on est des graciers. On n'est pas des gens qui méritons de sortir de la prison du péché. Ce sont les mérites de Christ qui font qu'on sort de la prison du péché. » Et je vous dis, c'est un combat perpétuel pour nous. Notre vieil homme veut refaire surface constamment. Puis on veut retourner, on veut rembourser Jésus pour ce qu'il a fait pour nous constamment. Et on assiste à une, un exemple super pathétique dans ce passage-là. C'est comme si on disait des fois, « Laisse-moi me reposer 5 minutes sur la loi. » Parce que vivre en m'appuyant sur la grâce, c'est contre nature, tu sais. Mais laisse-moi au moins 5 minutes pouvoir me regarder dans le miroir puis dire, « Hey, t'es hot, man. T'es un chrétien vraiment obéissant à toi. » Paul dit dans Galates 1 au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Au chapitre 2, verset 11, il dit, « Mais lorsque Céphas, c'est Pierre en réalité, vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. » J'appelais ça le Pierre d'achoppement. Petite joke de mon oncle. Mais pensez-y un instant. Pierre a découvert l'Évangile, puis parce qu'il a découvert l'Évangile, je ne sais pas si vous êtes familier avec le livre des Actes, lorsque Pierre a une vision, puis là, dans la vision, il y a une nappe, puis là, sur la nappe, il y a comme toute la bouffe qu'on va manger aujourd'hui à l'Action de grâce, OK? Puis, mais lui, c'est un juif, tu sais, fait que normalement, il y a comme des parties qui n'auraient pas dû être là, parce que tu ne peux pas rendre grâce pour cette bouffe-là, c'est comme, c'est pas kosher. Puis là, dans la vision, il lui dit, non, mange tout. Et il ne comprend pas du tout. Mais là, il a compris. On est quelques temps plus tard, puis il a compris, fait qu'il s'en va visiter Antioche, tout ça, puis il est invité à manger avec des gens qui n'étaient pas d'origine juive, puis bon, ben il se sent très, très libre de manger tout ce qu'il y a sur la table, puis qu'ils peuvent manger du porc, ils peuvent manger n'importe quoi, il n'y a pas de contrainte diététique, d'accord? Puis Pierre est heureux dans ça. Mais là, il se pointe une gang de doudes qui arrivent, qui n'ont pas toutes saisi l'Évangile. Puis eux autres, ils disent, wow, ceux qui sont d'origine juive. Écoutez, là, déjà, vous essayez de nous faire passer en travers de la gorge que ceux qui ne sont pas juifs n'ont pas besoin d'embrasser les lois juives. Ceux qui sont d'origine juive vont toujours bien faire ça. Mon Pierre change de table. Non seulement Pierre change de table, mais plein d'autres changent avec lui de table. Barnabas change de table. Paul s'arrache les cheveux puis il dit, on est foutus. L'Évangile vient d'être nié devant toute l'Église par l'apôtre Pierre. Il se lève et il le reprend devant tout le monde. Il dit, « Pierre, je suis désolé, mon vieux, mais tu viens de renier l'Évangile. » Parce que l'Évangile, c'est que la loi ne peut pas nous sauver. On est libéré de la loi ne peut pas nous sauver. Puis là, tu viens de contredire la grâce. Juste en faisant ça, tu t'es soumis à ceux qui n'ont pas bien saisi l'Évangile, puis on vient d'instituer une nouvelle loi dans l'Église. Non, ça ne passera pas, mon vieux. Ça ne passera pas. Puis Paul s'oppose littéralement à Pierre. C'était moins demandant, dans ce moment de faiblesse-là pour Pierre, de se soumettre à une mauvaise compréhension de l'Évangile que de se tenir debout pour la grâce. Parce que y a toujours quelque chose en nous. Ce n'est pas juste l'opposition avec les gens. On le vit au quotidien. C'est comme si ça nous fait du bien d'aller se reposer dans nos œuvres. Puis ça met tout un dilemme. Puis je vais te donner une illustration, admettons, avec un plan de lecture de la Bible. Okay? On arrive à la fin de l'année. Oui, en janvier, on va vous proposer encore un plan de lecture de la Bible. On va vous encourager la Bible. C'est une bonne chose. Puis là, certains d'entre vous, quand la première fois qu'on va en parler, là, vous allez dire, ouf. Je pense que j'ai lu ma Bible 2 fois cette année. Il faudrait bien que j'embarque, tu sais. Parce que là, vous vous sentez coupable, tu sais. Puis là, vous dites, ouais, je pense, écoute, on nous a dit qu'il faut embarquer dans un plan de lecture pour grandir avec maturité. Hey, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on fait? On n'adopte pas de plan de lecture de la Bible parce que vous allez prendre la sagesse de lire les Écritures, puis vous allez en faire une loi, puis vous allez décider de lire la Bible par pure culpabilité. Fait qu'on ne fait plus ça. Mais non, dans le Nouveau Testament, il y a un paquet de prescriptions qui sont là. Il y a plein de commandements. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de commandements. Faites ci, faites pas ça. C'est toujours là, même si on n'est plus sous la loi. Parce que c'est un guide vers la sagesse. Est-ce qu'on va arrêter de parler de ce qui est bien à faire, de se guider à travers la parole de Dieu, parce que ça se peut que je la reçoive mal, puis je prenne ça comme un fardeau, puis là, je suis, tu sais? Puis des fois, écoutez, notre réflexe, c'est d'aller se réfugier, se reposer dans la loi. Là, tu commences l'année, tu sais, tu as pris ton petit signet, puis là, ou bien tu es sur l'application, puis là, une semaine, tu lis ta Bible tous les matins. Ça fait du bien. Je me sens bien, je suis reposé. Je me suis reposé dans mes œuvres, je suis ça à coche. C'est plus de travail de dire, OK, j'ai pas le goût de lire ma Bible ce matin. Puis au lieu de dire, je la lirai pas parce que si je la lisais, ce serait avec les mauvais motifs, je vais juste me dire, OK, Seigneur, je sais que la sagesse est là, l'Évangile, la grâce est là dans les Écritures, puis ça va m'apporter de la joie, mais j'ai vraiment pas le goût de lire ma Bible. Je le feel pas. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers le Seigneur, puis je vais dire, OK, je vais lire ma Bible, mais je vais commencer avec ceci. Seigneur, je sais que la joie se trouve là, pas dans mon crochet sur mon petit signet, mais dans ce que la parole de Dieu va m'apporter. Puis j'en ai vraiment pas envie, mais je veux vivre la joie de la grâce. Je veux vivre la joie de savoir que Dieu m'aime. Fait que je vais aller lire en cherchant la grâce, en cherchant la vie que Christ produit en nous. Et ça, c'est un défi énorme, mais c'est un défi quotidien. De dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux fixer les regards sur Christ. Puis vous savez, il y a des gens, lorsqu'on prêche l'Évangile comme ça, il y a des gens qui disent, ouais, mais attends un petit peu, là, ça veut dire qu'on fera n'importe quoi. Il n'y a plus de loi, les chrétiens peuvent faire n'importe quoi. Inquiète-toi pas. Fixe les yeux sur Jésus, ça va te prendre toute ton attention pour t'abandonner à sa grâce. Mais fixe les yeux sur lui. Puis quand tu vas fixer les yeux sur Christ, là, inquiète-toi pas. Tu n'iras pas te débaucher à l'infini, mon homme. Si tu as les yeux fixés sur Christ, là, tu vas dire, Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Je veux être comme toi, mais je n'y arrive pas. Je m'abandonne à ta grâce. Fais-toi-en pas, tu n'iras pas dans le péché. Fixe les yeux sur Christ, tu vas pouvoir te reposer dans la grâce, puis ça va générer en toi une joie à chercher à lui ressembler. Mais garde les yeux fixés sur lui, parce que dès que tu vas commencer à y ressembler, tu vas dire, « Je suis bon. » Non, tu n'es pas bon, c'est lui qui est bon. Garde les yeux sur lui. Oh, c'est vrai, c'est ta grâce, Seigneur. Je veux m'abandonner à ta grâce, Seigneur. Je veux revoir l'Évangile chaque matin quand je me réveille, chaque soir quand je me couche. Je veux fixer les yeux sur Jésus-Christ. Et c'est juste à ce moment-là, quand je m'abandonne à la grâce, que cette nouvelle vie-là est en train de jaillir en moi. Fait que tu croises un ami à l'église, puis il dit, c'est tough. Je trouve ça lourd, la vie chrétienne. Je pense qu'il faudrait que je lise plus ma Bible. Oui, c'est vrai. Mais au lieu de dire, ouais, tu sais, on a un plan de lecture, si t'embarques, regarde, tu vas pouvoir, puis tu vois, ça va te faire du bien. Pourquoi tu dis, ouais, arrête un petit peu, là. On va sortir la guitare, puis on va commencer à chanter. On va commencer à chanter des chants de louange. Vous arrivez ici le dimanche matin, puis vous dites, « Man, je n'étais tellement pas sa coche cette semaine. Ça ne me tentait même pas de venir parce que Yannick va nous prêcher un message puis il va nous dire qu'il y a un plan de lecture qui s'en vient. Puis on a manqué un plan de lecture. Puis je ne suis pas vraiment un bon chrétien. Oh, mais il y a de la louange. Tu n'as même pas besoin de chanter. Laisse les autres chanter autour de toi. Fixe les yeux sur Jésus-Christ. Rappelle-toi que tu n'as rien à prouver à Dieu. C'est lui qui l'a fait. Tu n'arriveras pas à te prouver. Tu trouves que cette semaine, tu n'as pas assez remboursé de ta dette à Jésus? Man, tu es tout mêlé dans ta tête. Viens ici, puis on va t'aider à regarder à Christ à travers la louange. Et je l'espère à travers la prédication de la parole aussi. On va t'aider à tourner tes regards seulement vers Christ, parce que nous sommes sauvés par grâce. Puis c'est la grâce de Christ qui nous justifie. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre en avant, puis je vais vous laisser avec des questions concrètes à vous poser cette semaine. Si vous jasez entre vous, dans votre petit groupe, à la maison, avec des amis, vous savez, on va se demander, as-tu passé une bonne semaine? Puis là, des fois, on va dire, mais comment ça s'est passé avec le Seigneur? Comment ça va dans ta relation avec Dieu? Si c'est de la culpabilité que vous ressentez, quand je vous dis ça, là, comment ça va ta relation avec Dieu? C'est-tu de la culpabilité que vous vivez? Arrêtez-vous. Puis prenez le temps juste de revenir à l'Évangile. Juste de revenir à la grâce pour retrouver la joie qu'on trouve dans l'Évangile. La question qu'on devrait se poser, ce serait peut-être quelque chose plutôt comme ça, d'accord? Est-ce que tu t'es concentré sur la grâce de Dieu cette semaine? Est-ce que tu as vécu la joie de la grâce cette semaine? Si tu ne l'as pas vécu, viens, on va chanter ensemble. Et on va chanter des cantiques ensemble. Puis on va juste s'abandonner à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. On va prier. Père éternel, je veux te remercier pour ce que ton Fils extraordinaire a fait pour nous. Quel sauveur merveilleux, Seigneur, nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, je veux confesser, encore une fois, moi le premier, Seigneur, combien c'est difficile pour moi de vivre à la lumière de cette vie nouvelle. Accepter que toutes mes œuvres sont mortes, tous mes désirs de me prouver à toi, je les ai abandonnés. J'ai renoncé à essayer de me présenter par moi-même juste devant toi, puis je viens m'appuyer seulement sur ta grâce, Jésus. Et Seigneur, je te demande dans cette église, dans cette assemblée, de nous faire grandir dans l'Évangile, Seigneur. Et que dans les moments où la vie chrétienne nous semble lourde, Seigneur, nous revenions par réflexe à la grâce, qu'on vienne retrouver la joie de notre salut dans ton œuvre à toi, Jésus. Que lorsque nous ouvrons la parole pour lire les Écritures, notre prière, ce ne soit pas « Montre-moi qu'est-ce que je dois faire », mais ce soit « Montre-moi ce que tu as fait pour moi, Seigneur ». Montre-moi ton amour, Seigneur. Après, tes instructions vont être douces et mélodieuses dans mes oreilles, Seigneur. Et lorsqu'on voit un frère, une sœur qui est abattu, Seigneur, aide-nous à développer le réflexe de ne pas se poser la question « Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Où est-ce qu'il a manqué? » Mais commencer simplement par s'assurer que la joie du salut, la joie de l'Évangile, la joie de l'amour de Dieu, la joie de la grâce est présente dans sa vie. Seigneur, fais-nous grandir dans ta grâce. Amen.